Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est écrit ça? C'est écrit? C'est écrit une heure ou un jour? Ah. Mais proportionnellement, c'est la même chose. Dans Luc chapitre 12, nous avons un texte, Luc chapitre 12, verset 13, où un homme s'est autorisé à interpeller Jésus alors qu'il était en train de leur parler. C'était pas bien, mais ça a été utile. Luc chapitre 12, verset 13. Est-ce que c'est un besoin de poser des questions à Dieu? Eh oui. Mais il y a un moment pour poser des questions. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Une belle histoire, ça s'est passé dans un contexte particulier. Jésus était en train de parler. Et puis quelqu'un, bien sûr, avait un fardeau. Comme ça peut nous arriver à chacun de nous. Un fardeau, une situation qui nous préoccupe. Cet homme avait peut-être perdu ses parents et il avait des difficultés pour l'héritage avec son frère. Il a vu que Jésus était fort, puissant, capable, intelligent, et il a dû se dire, il faut que j'ai de l'aide de Jésus pour ce problème humain, matériel, etc. Ce qui était bien de penser à Jésus pour des problèmes matériels. Est-ce que c'est bien de penser à Jésus pour les problèmes matériels? Bien sûr, on a besoin de penser à Jésus. Jésus peut nous aider dans quel domaine? Dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Jésus dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc, on en déduit que lorsqu'on a un problème d'argent, ça peut arriver d'avoir un problème d'argent? Oui, on peut faire appel à Dieu. On a un problème autre dans les relations professionnelles. Est-ce qu'on peut faire appel à Dieu dans un problème de relations professionnelles? Est-ce qu'on peut faire appel à Dieu dans un problème d'orientation scolaire, etc.? On peut faire appel à Dieu dans plein de domaines, et il faut le faire. C'est recommandé de faire connaître à Dieu tous nos besoins. Ça va même plus loin, puisque la Bible parle de nos désirs. Il y a une grande différence entre nos besoins et nos désirs, mais aussi Dieu peut prendre soin de nos désirs. C'est bien ? C'est écrit plusieurs fois, ça ? Quand est-ce que c'est écrit par rapport à nos désirs ? Il faut m'aider, parce que je... Allez, vous avez un verset en tête qui fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est extraordinaire. Comment Dieu, on peut en lire un dans le psaume 145. C'est important, vous savez, de savoir que Dieu s'occupe de nos besoins. Alors, dans le psaume 145, c'est important de savoir que Dieu entend les prières, que Dieu aime nos prières. Il y a plusieurs sortes de prières, mais là nous avons un point. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est quand même une condition d'être vrai, toujours vrai. Et il est dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc on voit que Dieu pourvoit tous nos besoins, mais qu'également, il est capable de répondre à nos désirs. C'est très important, parce qu'on a des désirs et on a des besoins. Là, ce n'était pas trop à propos. Cet homme, lui, il pensait, il était là avec un auditoire. Jésus devait certainement s'entretenir des choses spirituelles, mais lui, il l'interrompt. C'est ça urge, il est pressé et il demande de l'aide. Et Jésus va lui dire, mais on ne m'a pas établi pour être juge. Est-ce que Jésus aurait pu juger la situation? Est-ce que Jésus aurait pu la juger? Oui, est-ce que Jésus sera un jour le juge au fait de toute la terre? Est-ce que Dieu a établi un jour dans l'histoire du temps où il jugera la terre? Est-ce qu'il y a un des textes qui montre que Jésus jugera le monde? Oui, c'est fixé. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné d'avance, à savoir Jésus-Christ, c'est dans Actes au chapitre 17. Il y a un jour qui est fixé, où le monde sera jugé. Le monde qui ne connaît pas Dieu, car les chrétiens, eux, ne seront pas jugés. Ils rendront des comptes, ils devront rendre des comptes à Dieu, mais ils ne connaîtront pas le jugement. Mais le jugement viendra. Mais là, lorsque Jésus parle, il n'est pas venu comme un juge, il est venu comme un sauveur. Alors, il leur explique bien, puis il donne une part. Il va répondre à cet homme. C'est important de s'occuper de ses problèmes d'héritage, c'est important de s'occuper de ses problèmes relationnels, etc. Mais ce que le Seigneur veut enseigner dans cette parabole, c'est qu'il y a quelque chose qui devrait être une priorité dans la vie de tous les hommes sur la terre, c'est de s'occuper de son âme. Parce que votre âme, vous en avez une, les gens ne le savent pas, il y a beaucoup de gens qui vivent comme s'ils n'avaient qu'un corps. Demandez aux gens dans la rue, est-ce que vous savez que vous avez une âme? Ils vont vous regarder, ou un esprit. Dites-leur, est-ce que vous savez que vous avez un esprit? Ils vont vous dire, un esprit, moi j'ai un corps, j'ai des émotions, mais un esprit, j'en sais rien. Est-ce que franchement vous croyez que les Français se préoccupent de savoir s'ils ont un esprit? Non. Et pourtant la Bible nous le rappelle que nous avons un corps, une âme et un esprit. Et que cette âme, elle nous sera redemandée. D'ailleurs, c'est très bien dit dans le verset 20. Le verset 20 est un verset qui est extraordinaire, dans le sens où il nous fait comprendre par la bouche de Jésus lui-même que notre âme ne nous appartient pas. Vous voyez, cet homme qui est, dont Jésus fait allusion dans la parabole est un homme intelligent, puisqu'il a bien travaillé. Il a fait des progrès, il a fait certainement des plans, et il a fait une grosse récolte, donc c'est un homme intelligent. Aux yeux du monde, quelqu'un qui récolte, qui réussit professionnellement, c'est quelqu'un de comment? C'est quelqu'un d'utile, c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà, nous, si vous avez des entreprises, ils recherchent des gens intelligents qui fassent fructifier l'entreprise. Donc cet homme aurait été catalogué par les hommes, par les directeurs, le président de l'association, par le président de l'entreprise. Voilà, c'est un homme intelligent, il a fait fructifier l'affaire. Et pourtant, parce que cet homme ne s'est pas occupé de son âme, Jésus, le Seigneur de la vie, dit que cet homme-là, malgré toute cette intelligence intellectuelle, est taxé d'insensé. Il lui dit « insensé ». Voilà un des mots les plus forts de ce texte. Un homme qui ne s'occupe pas de son âme est un insensé. Mais Dieu lui dit « insensé ». Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je viens d'un foyer catholique qui ne connaissait pas du tout la grâce de Dieu. On allait à la messe le dimanche, mais ça restait très, très, très superficiel et très, très traditionnel. Et souvent, on disait, un tel a rendu l'âme. On entendait souvent, c'est ce qu'on disait chez nous. Je ne sais pas si comment c'était dans votre famille. Voilà, on dit, tonton, un tel, il a rendu l'âme. La première fois que j'ai entendu ça, je m'en souviens, j'étais petit, il a rendu l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé, on m'a dit, mais je ne sais pas, ma mère me dit, vous voyez, il a rendu l'âme. Mais c'est une expression qui est excellente. Il a rendu l'âme. Ça nous prouve qu'un jour, notre âme nous sera redemandée. Votre âme vous sera redemandée. je ne sais pas à quel âge, à quel jour. Vous voulez vivre vieux? Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Est-ce que ça vous intéresse de vivre vieux? Bon, vous, monsieur, vous êtes déjà vieux. Mais est-ce que... Et pas tant, non, pas tant. On a presque le même âge. Je plaisante. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il y a déjà... Ah non, moi, je ne veux pas vivre vieux. On l'entend, ça. Moi, je ne veux pas vivre vieux. Moi, je ne veux pas être dépendant des autres. Moi, j'aimerais partir, pas trop vieux. Mais ça ne veut rien dire. Pour certains, pour un jeune de 15 ans, un vieux, c'est quoi? C'est que, à quel âge il a un vieux? 40? 70. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, quand je demande à ma petite fille, c'est quoi ma petite fille, un vieux? Ben, un vieux, c'est quelqu'un comme toi. Ah bon, mais t'es vieux? Mais je suis vieux. Non, pas toi, toi, t'es pas vieux. Vous voyez, les enfants, là, pour Madame Carrière, on est tous des jeunes. Il y avait une dame à l'église qui avait 105 ans. Elle avait 105 ans, et quand elle avait 100 ans, j'avais été la trouver pour la visiter à sa maison de retraite. Et puis on discutait, tout ça, une femme bien, une chrétienne attachée à Dieu et tout. Puis elle commence à me dire, vous savez, dans la maison de retraite, il y a vraiment des problèmes. Ils ont fait venir des jeunes et vraiment, ils font du bruit et tout. Ah bon, il y a des jeunes dans la maison de retraite? Ah oui, monsieur Gosset, c'est inacceptable, d'ailleurs, je ne comprends pas. Mais quel âge ils ont? Ben, ils ont 75 ans. Ben oui, mais c'est vrai que pour elle, c'était des jeunes. Vous voyez comment tout est, on peut tout relativiser. Mais je vous dis ça parce que, mais vraiment, elle le pensait vraiment. Vous voyez comme quoi ça veut absolument rien dire. Mais bon, tout ça pour revenir au texte, notre âme nous sera redemandée. Il y a des choses qui vous appartiennent. Vous avez pu acheter une maison, par exemple. Et la maison, elle est à vous. Vous pouvez dire, non, non, elle ne m'appartient que le temps que je suis sur la terre. Vous pouvez le calculer comme vous voulez, selon les lois françaises. Si vous avez acheté une maison, la maison, elle vous appartient. Même si c'est que pour jusqu'à la fin de votre vie, elle vous appartient. Vous avez acheté tel ou tel appareil, ça vous appartient. Mais s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr que ça ne vous appartient pas, c'est votre âme et que Dieu vous la redemandera le jour qui l'a désiré. Le jour qui correspond exactement à son plan, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui meurent à 20 ans. Quand quelqu'un meurt à 20 ans, comment on réagit? Comment vous avez entendu la réaction des gens quand quelqu'un meurt à 20 ans? Les gens, ils sont catastrophés. Mourir si jeune, mais c'est pas possible. Comment a-t-il pu mourir à 20 ans? Mourir dans ces conditions? Bon, dès 40 ans déjà, bon, il a quand même vécu. Mais enfin, il laisse une famille, une jeune famille, etc. 60, bon, 60, ça commence à faire. 80, bon, 80, c'est normal. Et puis, quand l'autre jour, la voisine, elle passe, elle dit, vous allez bien? Elle me dit, il faudrait que celui qui gouverne là-haut, il ne se trompe pas, parce que je devrais partir. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, il sait quand est-ce que vous devez partir. On a tout, ça vous prouve que nous, on raisonne. Parce que pour nous, 20 ans, c'est peu, 90, c'est beaucoup. Mais aux yeux de l'éternité, au fait, tiens donc, partons de l'éternité. Parce que l'éternité, ça fait long quand même. L'éternité, que quelqu'un meure à 20 ans ou à 80, est-ce que ça fait une différence? Aucune. Il n'y a aucune différence. Que quelqu'un meure à 20 ans ou que quelqu'un meure à 80, il n'y a aucune différence. Au point de vue éternel, ça ne fait aucune différence. Au point de vue temporel, oui. Mais nous devons penser à l'éternité. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si vous n'étiez pas chrétien, même si vous n'êtes pas encore né de nouveau, comme l'a chanté Gaël, qui nous a rappelé par ses cantiques l'importance de ce qu'un jour on se tiendra devant Dieu, devant le tribunal de Christ. C'est écrit que l'un jour, eh bien, on comparera. Qu'est-ce qu'on aura fait de Jésus? Mes frères et sœurs, c'est des choses auxquelles il faut absolument réfléchir. Est-ce que vous réfléchissez à l'éternité? Dernièrement, j'ai discuté avec un monsieur, il m'a dit non, non, non. Je n'ai pas la pensée de l'éternité. Je vous assure, il me dit, monsieur Gauche, je n'ai pas la pensée de l'éternité. Je dis, c'est pas possible. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Puis je suis arrivé à la maison et je priais. Et j'ai ressenti dans mon cœur que cet homme ne m'avait pas menti. Mais j'en ai déduit ce que la Bible dit. C'est que lorsque notre cœur s'est endurci à ce point, pour qu'on n'ait plus du tout la pensée de Dieu, pour qu'on n'ait plus du tout la pensée de l'éternité, c'est que vraiment, ça va mal. Et je pense que même si Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, un homme peut en arriver à être complètement, complètement sur ce point de non-retour, comme Pharaon qui a vu son cœur être endurci par Dieu lui-même, parce que cet homme, il avait fait le choix d'être contre Dieu. Il avait levé, comme dit la Bible, la main contre Dieu. Si vous en étiez là, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de repentance, beaucoup de travail. Mais, comme on l'a entendu, Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Cette nuit même, il y a un jour, vous aimeriez savoir quel est le jour où vous allez partir de cette terre ? Non, je pense que je pense qu'on partirait tous avant, de peur, 24 heures avant. Vous aimeriez le savoir ? Non, je pense que Dieu ne veut pas qu'on sache. C'est déjà arrivé que certaines personnes aient été prévenues. Il y a un frère dans l'église, ou une sœur, qui me racontait qu'ici, dans l'église, il y a 50 ans, il y avait un frère qui va voir son épouse le soir. Il lui dit, bon, ben, je viens te dire au revoir. Pourquoi ça ? Mais comment ça ? Ben oui, je viens te dire au revoir, je m'en vais auprès du Seigneur. Ah bon, ils étaient âgés, ils faisaient chambre à part. Il dit, voilà, je viens te souhaiter une bonne nuit. Je quitte pas mon costume. Je reste en costume cravate, je vais me coucher en costume cravate. Le Seigneur m'a montré qu'il devait revenir me chercher. Sa femme, il a dit, mais ça va, t'es bien ? Oui, t'inquiète pas, je vais très très bien. Et le matin, quand elle s'est levée, il était mort dans son lit, en costume cravate. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau, hein ? Il y a des gens qui ont été avertis. Moi, ça ne me déplairait pas. Bon, pas un an à l'avance, mais 24, un mois à l'avance, oui, ça irait. Ou 15 jours, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, si Dieu, dans sa grande souveraineté, ne tient pas ce qu'on le chasse, je pense que c'est bien. C'est très, très bien. Mais une chose est sûre, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et il faut se préparer. Et il y a un verset qui revient dans la Bible plusieurs fois, écrit d'une manière ou d'une autre, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il y a un problème d'héritage, c'est normal. Il y a un autre problème, c'est normal. On en parle à Dieu, c'est normal. Il agit d'une manière ou d'une autre, c'est bien. Ou ça nous plaît moins bien, c'est pas grave. Mais par contre, il faut comprendre une chose, c'est que si vous ne vous occupez pas de votre âme, eh bien, vous allez avoir des problèmes lorsque vous allez partir. C'est important, je me permets de parler, je vois Mme Guilabert, je pense à son mari quand il est venu la dernière fois. Vous vous rappelez ? Oui, il était jeune, 37, 38 ? 38 ans. Ouais, je peux parler ? Ça ne vous gêne pas ? Ouais. Je me souviens de cet homme qui est venu. Il avait eu de gros, gros problèmes. Et je lui ai dit, il était venu à l'imposition des mains, je lui ai dit, mais Monsieur Guilabert, il vous faut donner votre âme à Dieu. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu peut vous reprendre. Je me souviens très bien, c'était là, il y a 12 ans, 13 ans ? Et je me souviens qu'il a donné son cœur au Seigneur. C'était archi compliqué parce qu'il venait pour d'autres problèmes. C'était demandez à Mme Guilabert, elle vous l'expliquera mieux que moi. Et il a dit, mais Seigneur, je te donne mon cœur. C'est beau quand même. Hein? Et il est mort, il a fait un arrêt cardiaque combien ? 2 jours après ? Ouais, je ne sais plus. Quelques jours après. À 38 ans, vous voyez ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il n'y a pas d'âge. Et quand Dieu dit, mais ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as, pour qui sera, ça, c'est sûr que si vous avez 100 millions à la banque, bon, c'est bien, vous pouvez m'en parler d'ailleurs, je peux vous orienter. Mais franchement, que vous ayez 10 euros ou 10 millions à la banque, ça ne change rien du tout. En tous les cas, quand l'heure sonne, laissez-moi vous dire que ça ne change rien du tout. Ce que tu as préparé, pour qui ça sera ? Pour personne. Ton âme te sera redemandée. Vraiment, je vous pose la question, est-ce que vous avez pris le temps de donner votre âme à Dieu. Est-ce que vraiment c'est une affaire sérieuse ? Ou est-ce que vous préférez les idoles ? Priez les idoles. Il y a un avantage à prier les idoles. Il y a un gros avantage. Comment ? Eh oui. Priez la Sainte Vierge, priez Saint Christophe. Je me rappelle, moi, quand on était petit, on me disait, si tu perds les clés, il faut prier Saint Antoine. Ah bon, eh bien oui, il est spécialisé dans la pour ceux qui ont perdu quelque chose. Alors ça fait sourire, mais les gens ils le croient. Alors que la Bible est formelle, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez vous préparer, lorsque votre âme vous sera redemandée, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas, ça ne nous préoccupe pas. À nous les pasteurs, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui doit nous préoccuper, c'est que vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Et que si vous continuez avec les idoles, parce que quand quelqu'un se convertit, la Bible est catégorique. Comment vous vous êtes converti en abandonnant les idoles. C'est écrit ? Voilà. À quoi on reconnaît quelqu'un qui peut prendre vraiment le baptême, quelqu'un qui peut vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ ? Il a abandonné les idoles. Le problème des idoles, c'est que c'est quand même un lien spirituel. Regardez avec moi dans Ésaïe. Il y a beaucoup de textes comme celui-ci dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire que si vous aimez les idoles, vous êtes ce que la Bible appelle un adultère. Ça s'appelle de l'adultère. De l'adultère spirituel, il n'y a pas que l'adultère moral, c'est comme la perversion, il n'y a pas que la perversion morale, il y a la perversion spirituelle. Dans ce texte, dans Ésaïe 44, il est parlé de ceux qui acceptent les idoles et de ceux qui fabriquent les idoles. À partir du verset 9 de ce chapitre, il y a beaucoup de choses, mais il y a des textes comme ça, il y en a une vingtaine dans la Bible. D'une précision telle que quelqu'un qui cherche Dieu, de tout son cœur, il abandonnera les idoles. Si vous n'abandonnez pas les idoles, vous ne pourrez pas sauver votre âme. C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? On va le lire. Ésaïe 44, verset 9. « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. » Déjà les fabricateurs ou les fabricants. « Et leurs plus belles œuvres ne servent » Parce qu'il y a des belles œuvres, moi je vous le dis, il y a des idoles extraordinaires. Il y a des statues de tel saint, en or, en argent, en marbre, c'est magnifique, mais c'est catégorique. Jésus, les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Regardez, le deux premiers, ça ne sert à rien. Le deuxième, ça met les gens dans la confusion. Qu'est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité ? Vous avez vu tout ce qui est écrit ? Tous ceux qui y travaillent seront confondus. Ah, c'est sûr que le jour où ces gens passeront devant Dieu, il va y avoir de sérieux problèmes. Les ouvriers ne sont que des hommes, ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Les hommes, eux, les ont adulés, honorés. Vous savez, les gens qui ont construit des cathédrales, il y a des cathédrales magnifiques. Sérieusement, oui ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments merveilleux ? Il y a des cathédrales. Moi, par curiosité, j'en ai visité quelques-unes. C'est au niveau architectural, c'est extraordinaire. Mais je vous pose la question, soyons simples et vrais, on est devant le Seigneur. Est-ce qu'une cathédrale a pu sauver un homme ? Non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça a sentimentalisé la tradition, mais ça ne sauve pas une âme. Nous continuons, ils sont couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim ? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau ? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. Pour qu'elle habite dans une maison, il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, regardez bien maintenant la suite. Avec le reste, c'est Dieu qui parle, hein, c'est pas Ésaïe. Il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni intelligence. C'est pour ça que Dieu dit « insensé ». Insensé. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Regardez, la triste réalité, elle est maintenant là. Elle est là. Il ne rentre pas en lui-même. C'est pour ça qu'il y a de l'insensé. Vraiment qu'il y a de la bêtise. Il ne rentre pas en lui-même. Si vous priez la Sainte Vierge, je le dis devant Dieu, des idoles, si vous gardez sur vous des idoles. Moi, je l'avais ça, j'étais comme ça. Je peux vous dire que le soir de ma conversion, et j'ai tout jeté. Et le lendemain, dans ma maison, j'ai tout jeté. Dans ma famille, ils étaient furieux, mais je l'ai fait. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a pas l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur des charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. » Et avec le reste, là, il ne parle même plus d'idole. Qu'est-ce que ça, comment ça s'appelle une idole ?« Avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres. » Son cœur abusé, l'égare. Oui, Jésus dit insensé dans le Nouveau Testament. Et le résultat, il est sans appel. Il ne sauvera pas son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Alors on pourrait continuer, prendre d'autres textes. C'est très intéressant. Enfin, ça suffit. Ce qu'on a lu, ça suffit. Mais le résultat, c'est que si vous priez des idoles, vous ne pouvez pas rentrer en vous-même parce qu'il y a un lien satanique avec les idoles. Même si on ne le réalise pas. Vous savez, il y a le visible, mais la Bible parle de l'invisible. Il y a des anges qui nous protègent. La Bible dit que les anges nous campent auprès de ceux qui le craignent. Mais aussi, il y a les anges déchus, qui sont des démons au service de Satan, qui font tout pour nous empêcher de rentrer en nous-mêmes. Il y a des combats spirituels qu'on ne maîtrise pas. On l'entend des fois. Il a fait quelque chose, on ne l'a pas reconnu, ce n'est pas possible, quelque chose s'est emparé de lui. On a tous entendu ce genre de propos. Oui, il y a des combats spirituels, et le seul moyen d'être délivré de ces combats spirituels sataniques, le seul moyen d'être délivré de la puissance des ténèbres, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un, comprend ces choses, moi je vous assure, parce que mes parents avaient fait deux expériences avec Dieu. Mon père était fou, il avait été délivré. Et je m'étais engagé dans l'armée. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'ils avaient été bouleversés. Puis un an après, j'ai fait une démarche avec Dieu. Et le lendemain, je leur ai dit, mais vous avez fait des expériences avec le Seigneur. Je m'étais converti la veille. Et vous avez laissé dans la maison tous ces crucifix, toutes ces idoles. Vous avez laissé ça dans la maison. Ah, on n'ose pas. Vous voyez, ils avaient expérimenté l'expérience de Dieu, une expérience de délivrance, de guérison, de bénédiction. Mais ils ne s'étaient pas convertis. J'ai dit, mais il faut vous convertir maintenant. Alors, ils me regardaient parce qu'ils arrivaient. Elle ne pensait pas à ma mère que je me convertirais un jour. Elle m'a dit, mais Gérard, tu es vraiment chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien, ça y est. Il dit, mais il vous faut vous débarrasser de toutes ces idoles, de tous ces crucifix, de toutes ces saintes vierges. Je peux le faire. J'ai pris un sac, je me rappelle, un sac, je l'ai rempli en entier. Un grand sac, vous savez, pour mettre de l'engrais dedans. Mes frères et sœurs, quand vous vous convertissez, vous abandonnez les idoles. Et si vous avez des idoles dans votre vie, c'est que vous ne vous êtes pas converti et que vous n'irez pas au ciel. Écoutez, il faut bien qu'on vous le dise. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Regardez bien avec moi dans 1 Thessaloniciens. Regardez bien. Il faut lire ces choses. Comment on parlait de ces chrétiens? 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Si vous êtes ici, c'est parce que vous cherchez Dieu. Mais quand on cherche Dieu, il faut le chercher comme il faut. Oui ou non? Si vous cherchez de l'eau, vous allez chercher comment l'eau? Avec un cerf-volant? Non, l'eau, vous allez la chercher avec une pelle et une pioche, en creusant un puits. Qu'est-ce que vous diriez d'un gars qui cherche de l'eau avec un cerf-volant? Vous diriez, là, il y a un problème, le gars. Je cherche de l'eau avec les nuages. Attends, Non, mais vous, franchement, vous diriez, là, il y a un problème, le gars. Par contre, si vous voyez un gars qui se met à creuser une pelle, une pioche, une baramine et tout ce qu'il faut, vous direz, il y arrivera. Et quand on cherche Dieu, il faut le chercher comme il faut. Il faut le chercher avec la parole. Ta parole est la vérité. Donc Paul écrit aux Thessaloniciens, et regardez ce qu'il dit, c'est important. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, il est délivré des idoles, il ne peut plus avoir des idoles, il abandonne les idoles. Et si vous aimez les idoles, c'est que vous êtes religieux, vous êtes dans la tradition, vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous ne sauverez pas votre âme. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, ça m'est égal. Mais moi, je vous dis que quand vous passerez devant Dieu, Dieu vous dira, tu as été une personne abominable parce que tu priais les idoles. Écoutez, si vous ne croyez pas la Bible, c'est que vous n'êtes pas converti. Moi, c'est mon devoir de vous dire, mais repentez-vous. C'est parce que cette nuit même, c'était avec qui que j'étais il y a... Mais c'était avec M. Marquet, il y a un mois et demi, vous vous rappelez? On a été voir un monsieur, oui, je vous le dis parce que ça m'arrive souvent, on a été voir un monsieur, puis monsieur, bon, j'ai dû lui faire comprendre qu'il fallait qu'il vraiment il s'attache à Dieu. J'ai dit, mais vous ne savez pas, monsieur, quand est-ce que votre âme vous sera redemandée, vous vous rappelez? Vous ne savez pas, le Seigneur peut vous reprendre, dans un mois, etc. Ça peut arriver. Et presque jour pour jour, un mois après, il est parti. Et nous, les pasteurs, c'est à cela que nous servons, à vous aider, à vous préparer, à vous rencontrer, même s'il y a la joie du salut. Moi, je peux chanter jusqu'à ce que je m'endorme ce soir, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et ça pourrait arriver d'ailleurs. Ça ne vous arrive pas quand on chante un chant à l'église de le rechanter après toute la soirée? Ça ne m'étonnerait pas que je m'endorme avec ça ce soir. Merci Gaël d'avoir pris un bon cœur pour une fois. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que vraiment vous avez dit « j'abandonne les idoles » J'abandonne les abominations. Lisez, mais lisez la parole. Et vous verrez que le Seigneur est un Dieu jaloux, il ne supporte pas les idoles. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus sur le bois de la croix. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette nuit, pourtant, c'était un homme intelligent. Mais là, Jésus le dit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ces gens n'ont aucune intelligence. Je ne parle pas intellectuellement, puisqu'ils sont capables de réaliser des projets. Spirituellement, si vous ne vous occupez pas de votre éternité, parce que sur Terre, je l'ai dit, 20 ans, 40, 60, 80, 100 ans, c'est bien. Mais l'éternité, quand même, ça vaut quand même la peine de le calculer, l'éternité. En enfer ou au paradis? En enfer ou dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça vaut quand même la peine de sonder son âme et de se poser la question, mais est-ce que j'ai fait la paix avec Jésus-Christ? Au tribunal, Jésus se tient. Un jour, il sera assis, dit la Bible, sur le grand trône blanc. C'est écrit dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, où est assis le Seigneur? Sur le trône de la grâce. Tant que Jésus est assis dans le trône de la grâce, tout le monde peut obtenir la grâce, la miséricorde, et le pardon. Le jour où le Dieu du ciel et de la terre sera assis sur le trône blanc, ça sera réglé. Ou vous partirez dans les nouveaux cieux, ou vous partirez en enfer. Donc vous devez vous préparer. Cette nuit, je ne dis pas que cette nuit vous allez mourir, ça peut être moi qui vais partir. Est-ce que je peux partir cette nuit? Ben ouais, moi ça me va, très bien. Mais parce que je me suis préparé. Est-ce que vous êtes prêts? On va fermer les yeux, tout simplement. Tout simplement, on va fermer les yeux. Parce que c'est un acte de foi, c'est pas compliqué. C'est compliqué quand on est compliqué. C'est compliqué quand on est religieux, quand on est tordu. La Bible parle qu'on est tous tordus, de toute façon. Mais quand on est simple, on dit, voilà, Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la croix, on l'a chanté. Il est mort et son sang peut nous purifier, nous laver. Ça s'appelle la repentance. Et la conversion, c'est, voilà, je me mets à obéir. C'est pour ça que la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Si vous vous repentez, vous serez sauvés. Si vous vous repentez et si vous vous convertissez, vous maintiendrez votre salut. Si vous ne le faites pas, eh bien vous serez perdus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre Père, notre Dieu, oui, nous sommes heureux parce que tu nous as sauvés. Nous pourrons le chanter, nous le chanterons dans les cieux, nous chantons ici-bas. Oui, nous sommes heureux. Parce que tu as ouvert nos yeux et que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu es un Dieu qui délivre des ténèbres, de l'enfer, des idoles, de toutes ces abominations. Tu permets que nous ayons des réunions comme celle-ci pour comprendre simplement, vraiment que tu es un Dieu qui délivre. Que ton nom soit béni. Cet après-midi, montre à l'un, à l'autre, qui n'a pas encore pris la décision de recevoir cette joie du salut. Oui, dans cette ville de Toulouse, tu vois tous ces Toulousains qui ne savent même pas qu'ils ont une âme, Seigneur. Seigneur, éclaire-les. convainc de péché, en particulier tous les fils prodigues qui un jour ont été touchés, qui ont fait une expérience, mais qui ne sont jamais arrivés à la conversion. Seigneur, délivre dans cette ville de Toulouse. Tu vois nos enfants, nos petits-enfants, tu vois les gens que nous côtoyons. Seigneur, que par ton esprit, nos vies soient utiles. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.